Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Saint-Esprit.
Mes frères, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le dimanche de la Septuagésime. Le temps de la pénitence s'amorce. Il commence pour les religieux, il s'amorce pour les autres fidèles. Il faut dire que le chrétien est plus à l'aise lorsque l'Église lui fait le commandement de la pénitence que lorsqu'elle lui fait un commandement de se réjouir. Dans les temps, le temps de Pâques, le temps de Noël, ces temps où nous nous réjouissons. Pourquoi disons-nous cela? C'est bien parce que qui peut se réjouir, mes très chers frères, qui peut se réjouir comme il faut à la contemplation des mystères de notre salut, qui, pendant ce temps de Noël et de l'Épiphanie, s'est vraiment réjoui comme il fallait de l'incarnation du Messie, de l'apparition du Messie à la face des nations. Nous avons vécu un temps dans la lumière de la liturgie, nous avons eu beaucoup de joie dans ce temps, mais qui nous dit que cette joie n'a pas été entachée de beaucoup de sensualité, que cette joie qui s'est manifestée par un régime un peu différent, surtout dans les alentours de Noël, n'a pas été l'occasion d'abus de notre part d'une façon secrète ou patente. Donc qui peut vraiment se réjouir convenablement lorsque l'Église nous demande de nous réjouir? Donc il se trouve que nous sommes plus à l'aise lorsque l'Église nous demande de faire pénitence. La contemplation de notre misère est bien plus aisée, car il suffit de nous reconnaître pour ce que nous sommes, de telle sorte que faire pénitence est sous un certain rapport plus à notre portée que de nous réjouir en Dieu. Ici-bas, je parle pour les chrétiens en état de voie. Nous avons donc plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit en ce dimanche de la Septuagésime. Tout d'abord, nous verrons dans le premier point qu'il est impossible de faire pénitence sans une grâce qui nous en donne le désir. Et nous verrons aussi certains avantages du temps de la pénitence publique et quelles dispositions intérieures nous devons y apporter. Dans un deuxième temps, nous examinerons l'oraison collecte de ce jour, qui est très importante, et nous verrons ce que l'Église nous fait demander à Dieu. Et en troisième lieu, nous terminerons en voyant quel est le but, en réalité, quel est le but pour lequel nous faisons pénitence. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, notre Seigneur fait dire ceci au père de famille qui sort vers la 11e heure, après avoir embauché toutes sortes d'ouvriers au fil de la journée. Il en trouva d'autres qui se tenaient là et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui dirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Mes très chers frères, une chose est certaine, que nous sommes pécheurs et que le péché ne se répare que par la pénitence. Nous parlons pour les chrétiens. Nous sommes pécheurs et le péché ne se répare que par la pénitence. Mais, donc c'est une chose qui est connue de tous et qui est acceptée par tous. Mais comment travaillerons-nous à la pénitence si nous ne recevons la grâce pour le faire? Lors de l'évangile des noces de Cana, nous voyons la Sainte Vierge, après que les gens aient bu tout le vin du repas et de la noce, et dire à notre Seigneur, ils n'ont pas de vin. De même, notre Seigneur dit aux ouvriers, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Il y a donc une sorte de radicale impuissance dans l'homme, spécialement l'homme de la 11e heure, qui correspond à l'homme du temps de la grâce, disent les pères, les autres heures sont les autres étapes de l'alliance que Dieu a faite avec l'homme. La 11e heure, c'est la dernière heure du jour, et il se trouve que c'est aussi l'heure à laquelle notre Seigneur est venu nous sauver. Il se trouve qu'il nous dit « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Il lui dit « Parce que personne ne nous a embauchés. » Personne ne nous a embauchés, c'est-à-dire personne ne nous a encore donné la grâce, nous fait la grâce, de pouvoir travailler dans la vigne du Seigneur. Avant de dire quoi que ce soit sur ce travail, il y aura beaucoup à dire dans le fait de travailler dans la vigne du Seigneur, il se trouve que nous devons nous rendre compte que, de même que nul ne peut travailler véritablement dans la vigne du Seigneur s'il n'est appelé par Dieu et missionné pour ce faire, c'est-à-dire que si tous ceux qui travaillent à moissonner ou à faire des choses dans un champ quelconque ne sont pas forcément des gens qui travaillent dans la vigne du Seigneur. Encore faut-il avoir reçu du Seigneur, par le biais de l'Église et des autorités de l'Église, la mission pour ce faire. Eh bien, de même que personne ne travaille dans la vigne du Seigneur sans y être appelé par le Seigneur, de même, nous pouvons dire que personne ne travaille dans la vigne du Seigneur qu'est sa propre vie, sans recevoir pour cela une grâce particulière. Alors, cette constatation peut amener le chrétien charnel très rapidement à la constatation suivante. Je ne fais rien, mais c'est parce que je n'ai pas reçu de grâce. Je n'ai pas reçu de grâce pour faire pénitence, donc du coup j'attends que le Seigneur me la donne et entre-temps je ne fais rien. La bonne excuse. Notre Seigneur ne nous permet pas d'interpréter cette doctrine de cette manière-là, puisqu'il dit « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour, oisif, quid extatis totadie ociosi ?» Il nous demande « Pourquoi nous nous sommes tenus tout le jour, toute la journée, oisif ?» Et nous devons confesser que c'est parce que personne ne nous a embauchés. Donc, il y aurait bien des considérations à faire, nous en ferons quelques-unes, maintenant, mes très chers frères, sur cette étrange oisiveté des ouvriers de la 11e heure lorsqu'on la considère par rapport à notre vie et à l'œuvre nécessaire de la pénitence que nous devons mener. Nous devons écarter, donc, nous l'avons dit, cette objection qui est une objection insolente envers Dieu, je ne fais pas pénitence parce que je n'ai pas reçu la grâce pour faire pénitence et il me semble que Dieu ne me l'a pas donnée. C'est une impertinence, puisque nous sommes tous appelés à faire pénitence, et la plus grande grâce que Dieu pouvait nous donner, sous un certain rapport, c'est celle du baptême. Donc dans la mesure où nous sommes baptisés, nous avons tout reçu. Donc si nous ne mettons pas à profit la grâce qui nous a été donnée au baptême, c'est que nous sommes paresseux et que nous nous tenons oisifs. Mais il est vrai que, aussi, pour chaque bonne œuvre, donc pour la pénitence lorsque nous devons la faire, il se trouve que nous avons besoin d'une grâce. Dieu ne nous donne pas une grâce générale au début, dont nous devons tirer plus ou moins d'autres grâces par nos propres forces, sachant qu'il ne nous aide plus. Nous avons besoin pour chaque bonne œuvre d'une grâce, d'une nouvelle grâce, qui est toujours la même, mais c'est toujours une nouvelle grâce qui doit nous être donnée. Donc nous devons comprendre, mes très chers frères, et cela nous permettra peut-être de débloquer certains nœuds dans notre vie chrétienne, c'est que nous devons comprendre que s'il nous semble que nous nous sommes tenus jusqu'à présent oisifs, et que par conséquent il nous semble pouvoir dire doctrinalement que nous n'avons pas reçu la grâce pour œuvrer à l'œuvre de notre sanctification, qui commence par la pénitence, eh bien c'est que effectivement nous n'avons pas reçu la grâce pour ce faire. Pourquoi ? Eh bien les auteurs nous disent parce que nous avons abusé des grâces que par ailleurs nous avions déjà reçues auparavant. Notre Père Saint Augustin nous dit très clairement qu'il arrive assez fréquemment, et même très fréquemment, que Dieu, lorsque le chrétien rencontre une tentation, ne lui donne pas sa grâce pour surmonter cette tentation ou pour faire la bonne œuvre que Dieu veut que cette personne fasse, d'une façon générique. Il ne lui donne pas sa grâce pour la faire. Pourquoi ? Pour le punir d'avoir mésusé des grâces qu'il lui avait données et dont il a usé, mais relativement imparfaitement, d'une façon ingrate et d'une façon partielle. C'est-à-dire que si nous avons reçu une grâce, que nous y avons correspondu et que nous nous en sommes enorgueillis par la suite, Dieu va nous punir en nous refusant ces grâces la prochaine fois que nous en aurons besoin. Lorsque nous avons reçu une grâce que nous avons demandée à grand cri, que nous l'avons reçue et que nous en avons fait un usage très médiocre par paresse, Dieu nous refusera sa grâce la prochaine fois. Alors vous allez dire, c'est cruel parce que Dieu sait que nous sommes faibles, etc. Si nous utilisions autant que nous le pouvions les grâces qui nous sont données en disant à Dieu, Seigneur, pardonnez-moi parce que je ne suis qu'un pauvre pécheur et j'use tellement mal de votre grâce que je suis bien conscient que je suis ingrat et mauvais, Dieu nous donnerait des grâces pour aller plus loin. Mais si nous nous comportons d'une façon ingrate, paresseuse, nonchalante, et que nous ne le confessons pas, et que nous ne reconnaissons pas que nous nous comportons d'une façon qui est mauvaise par rapport aux grâces que Dieu nous fait, alors Dieu nous châtiera. Pourquoi vous tenez-vous tout le jour sans rien faire? Parce que nous n'avons pas reçu la grâce, parce que nous avons démérité de la grâce. Nous parlons pour des baptisés. Nous avons démérité de la grâce. Il se trouve donc, mes très chers frères, que nous ne pouvons faire pénitence véritablement que si notre Seigneur nous donne une grâce efficace qui nous permet de mettre la main à l'ouvrage. Et que, encore une fois, que nul ne dise « je ne mets pas la main à l'ouvrage parce que il me semble que je n'ai pas reçu cette grâce ». Il faut se dire, plutôt que de se dire « pourquoi plutôt que de se dire « je n'ai pas reçu cette grâce donc je ne fais rien », il faut se poser la question « pourquoi alors que je sais que je dois faire pénitence, pourquoi est-ce que je me sens dépourvu de grâce? Qu'est-ce que j'ai fait pour être dans une telle situation? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de ne pas être employé et d'arriver à la 11e heure sans avoir rien fait d'autre que d'être oisif toute la journée sur la place publique? Vous voyez, notre Seigneur ne nous dit pas « je vous avais oublié, je vais vous donner maintenant une grâce ». Il nous dit « pourquoi vous tenez-vous tout le jour ici oisif sans rien faire ?» Parce que vous devez reconnaître, nous devons reconnaître que nous avons mésusé des grâces que nous avons reçues auparavant et que nous avons en quelque sorte mérité négativement d'être laissés pour compte par le bon Dieu. Alors vous allez dire, c'est terrifiant, ça veut dire que Dieu en réalité peut comme ça refuser sa grâce, mais absolument, c'est la moindre des choses que celui qui donne la grâce soit capable et le pouvoir de refuser sa grâce. Mes très chers frères, faisons attention à ce que nous disons. Si nous disons, comment se peut-il que Dieu ne donne pas sa grâce? Donc ça veut dire que Dieu est un pourvoyeur automatique de grâce, donc sa grâce n'est pas une grâce, c'est ou bien un dû, ou bien Dieu est un distributeur automatique dans la mesure où on vient avec des bonnes dispositions, on met la bonne disposition dans la fente, comme on met une fente dans la pièce dans la fente, et on reçoit, je ne sais pas moi, quelque chose qui tombe. Dieu qui donne sa grâce peut très bien aussi refuser sa grâce, il ne faut pas l'oublier. Dieu donne sa grâce généreusement, mais c'est parce qu'il pourrait très bien ne pas la donner du tout. Et c'est pour ça qu'il est généreux. Vous vous souvenez, nous l'avons souvent expliqué. Donc il se trouve néanmoins que à ces paresseux qui ont mérité, à cause de leur mauvaise attitude, à cause de probablement leur mauvaise leur paresse, leur attitude négligée, le fait qu'ils sont affalés, je ne sais pas, sur un banc en attendant que les patrons viennent embaucher des gens, ils ont mérité, à ces malheureux qui ont mérité, ces misérables, qui ont mérité de ne pas être employés toute la journée, voyons, mes très chers frères, que la grâce de Dieu vient quand même s'adresser à eux. Puisque vers la 11e heure, il en trouva d'autres parmi ceux-là, et il leur dit, allez, vous aussi, à ma vigne. Il ne leur promet rien, et nous savons qu'il va leur donner tout, mais il ne leur promet rien, mais comme il est juste et comme il est tout-puissant, lorsque il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, c'est qu'il leur donne la grâce de travailler alors qu'ils ne l'avaient pas mérité jusque-là. Commençons ce temps de pénitence en nous disant bien que pour faire pénitence, nous avons besoin de la grâce, et cette grâce, probablement qu'elle nous fait quelque peu défaut aujourd'hui, parce que nous avons mésusé des grâces qui nous sont données. Alors, pour nous, les religieux, mes très chers frères, évidemment, il faut s'empresser de tambouriner à la porte de notre Seigneur si nous nous trouvons dans cette situation-là. Il se trouve que, pour les autres fidèles, il y a comme un temps où, de préparation au moment où il va falloir travailler dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire le temps du carême. Ce n'est pas encore, les religieux font 70 jours, en tout cas dans notre famille, 70 jours de carême, les fidèles, en général, n'en font que 40. Grosso modo. Donc, il se trouve que, pour les fidèles, vous voyez, mes très chers frères, les laïcs, il se trouve que vous avez le temps de la septuagésime, de la sexagésime, vous avez le tout petit temps de la quinquagésime, pour vous repentir du mauvais usage, du mauvais emploi des grâces que vous avez reçues, et pour pouvoir demander très humblement à Dieu de vous donner la grâce de pouvoir bien commencer le carême. Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée oisif? Qu'avez-vous fait pour mériter qu'on ne vous emploie pas? Voilà les considérations par lesquelles nous devons commencer ce temps de pénitence. Nous ne pouvons pas faire pénitence si Dieu ne nous donne une grâce particulière. Si notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit un auteur, ne vient nous chercher, s'il ne nous envoie, s'il ne nous applique lui-même au travail, ou bien nous croupirons dans l'oisiveté, ou bien, ce qui est encore pire si j'ose dire, nous ne ferons rien que pour la vanité, rien pour Dieu, ni pour l'éternité. Nous sommes donc à nous-mêmes notre pire ennemi. Nous sommes à nous-mêmes notre pire ennemi. Pourquoi ces ouvriers de la 11e heure n'avaient-ils jamais été employés durant toute la journée? C'est parce que leur aspect était peu engageant. Et cela correspond aussi aux nations, aux gentils, à la gentilité, qui a été appelée à la 11e heure. Pourquoi Dieu a-t-il donné sa grâce aux gentils simplement à la 11e heure? Eh bien parce qu'ils étaient tellement, tellement dégoûtants en quelque sorte, que Dieu, dans son immense bonté, a voulu en quelque sorte leur ouvrir la porte du salut, dans la mesure où il était impossible qu'ils puissent échapper au constat de leur inutilité et de leur coupable oisiveté. Donc vous voyez, à tous les plans, cette interprétation s'applique. Il est impossible, revenons maintenant aux chrétiens, il est impossible de se combattre soi-même sans la grâce efficace de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans lui, l'homme est abandonné à lui-même, c'est-à-dire à son impuissance et à ses ténèbres. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Quoique les hommes soient capables de toutes sortes de choses, même qui vont presque jusqu'à des miracles naturels, si l'on peut dire, des gens qui se dépassent soi-même, des sportifs qui battent des records, des gens qui se tirent de la misère, des gens qui fument qui arrivent à ne plus fumer, des gens qui se droguent qui arrivent à ne plus se droguer, etc. Tout ceci est très bien, l'homme est capable de toutes sortes de choses. La seule chose, il n'est capable de rien à salut. Si le Christ lui-même, le Dieu, le Père, ne lui donne la grâce du réparateur, la grâce du sauveur. Abandonné à lui-même, l'homme n'est capable au mieux que de faire des actes pour sa vanité, rien pour Dieu, rien pour l'éternité. Il y a un grand avantage, une fois qu'on a compris cela, et qu'on commence un peu à trembler, il y a un grand avantage dans le temps de pénitence publique qu'inaugure la Septuagésime, et dans lequel nous serons tous états confondus dans le carême, pendant le carême, il y a un grand avantage, dis-je, à ce temps de pénitence publique, c'est que justement nous faisons tous pénitence en même temps. C'est une chose que les auteurs soulignent souvent, et à juste titre. C'est un grand avantage, c'est-à-dire tous les chrétiens, ils sont contraints en même temps. De telle sorte que tous les sarments de la vigne étant émondés en même temps, il n'y en a pas qui souffrent, et d'autres, pendant que d'autres manifestent, disons, une certaine complaisance dans le fait qu'ils ne souffrent pas. Il se trouve, mes très chers frères, que ce grand avantage, c'est que lorsque nous voyons tous les ornements de l'Église qui nous signifient le temps de la pénitence, nous voyons tous les ornements violets que l'Église utilise. Eh bien, autrefois, même la société catholique s'organisait en fonction de cet ordre. Nous savons que pendant le temps de carême, eh bien, la société civile, la société traditionnelle, eh bien, se ralentissait en quelque sorte pour que les fidèles, c'est-à-dire pour tout le monde, puissent participer aux offices, puissent écouter les sermons, les prédications spéciales qui avaient lieu pendant le carême. Aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus la même chose, puisque nous ne vivons plus dans une société chrétienne. Si nous vivions dans une société chrétienne, la société en temps de carême est une société qui a un rythme particulier, qui suit aussi la pénitence, le jeûne, l'abstinence, de telle sorte que on sait que tout le monde est plus fatigué relativement plus fatigué en temps de carême, de pénitence. Donc, nous faisons tous, autrefois, et même maintenant encore, puisque d'une certaine manière, nous nous encourageons quand même les uns les autres, nous faisons tous pénitence en même temps. Et cela n'est pas une petite chose, puisque c'est comme si nous nous entraidions, par notre exemple mutuel, les uns les autres, à entrer positivement dans ce temps où l'Église demande de nous une plus grande pénitence. L'exemple des uns encourage, en quelque sorte, je ne dis pas la paresse, mais disons la pusillanimité des autres. Voir les uns jeûner, faire abstinence, s'abstenir de tout, eh bien, permet aux autres de faire de même, sachant que c'est le moment ou jamais de le faire. Voir les religieux qui commencent plus tôt permet aux laïcs, qui ne sont pas encore tenus de commencer, permet aux laïcs de voir que ils prendront le train en marche, en quelque sorte. Vous voyez, donc c'est plutôt encourageant de voir, sous un certain rapport, que, état par état, Nous sommes tous, les uns avec les autres, dans ce grand temps de pénitence, à nous entraider les uns les autres à différents niveaux, de telle sorte que nous puissions tous marcher ensemble pendant ces 70 ou 40 jours, eh bien, dans cette œuvre, cette grande œuvre de pénitence que nous devons accomplir nécessairement avec l'aide de Dieu. Nous devons donc demander pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, ces grâces de pénitence, sans lesquelles nous ne pouvons pas faire pénitence, sans lesquelles, eh bien, nous, comme nous le dirons un jour ou l'autre, bien nous pensons que nous nous jetons dans le carême en pensant nous détoxifier, en pensant faire un jeûne thérapeutique, etc. Il y a plein de gens qui rentrent avec allégresse dans le carême et qui n'ont même pas besoin de l'exemple des autres, parce qu'ils font quelque chose qui n'a rien à voir avec la religion. Quand on rentre dans le temps de carême pour les raisons pénitentielles, qui sont les raisons officielles et uniques du carême, on s'aperçoit que la première tentation à laquelle nous sommes confrontés, c'est d'essayer de tirer la couverture à nous, d'obtenir des dispenses. Alors, ceux qui doivent être dispensés ont des dispenses et des commutations, je veux dire, mais il se trouve que, bien entendu, mais il se trouve que si nous faisons pénitence pour les bonnes raisons, alors nous serons tentés de ne pas faire pénitence, et c'est là où nous apercevrons que nous aurons besoin d'une grâce spéciale de notre Seigneur Jésus-Christ pour faire pénitence. Si nous faisons simplement un jeûne thérapeutique, nous n'avons absolument pas besoin de grâce, c'est-à-dire que nous faisons ce jeûne, peut-être pour notre corps, et en tout cas certainement pas pour Dieu. Nous devons tous nous entraider, et nous nous entraidons tous par notre exemple mutuel. Mais nous devons entrer, chacun d'entre nous, avec des dispositions intérieures particulières. Les textes, voyez-vous, les textes intermédiaires de la messe d'aujourd'hui, donc l'introïte, le graduel, le trait, sont des textes qui sont très encourageants. Si vous les lisez bien, nous n'avons pas le temps de les lire ici, mais si vous les lisez bien, vous verrez qu'ils sont très encourageants. Mais il se trouve aussi que nous ne pouvons pas être encouragés par ces textes si nous n'entrons pas dans l'esprit de ces textes. Prenons simplement l'introïte. Les gémissements de la mort m'avaient entouré. Les douleurs de l'enfer m'ont environné. Dans ma détresse, j'invoquais le Seigneur, et de son Saint-Temple, il entendit ma voix. Comment être encouragé si nous ne faisons pas l'expérience du découragement, en quelque sorte, qui, pédagogiquement, qui vient de l'expérience de notre propre faiblesse, de la constatation de notre propre faiblesse? Si les gémissements de la mort ne nous entourent pas, si les douleurs de l'enfer ne nous environnent pas, nous ne sommes pas dans la détresse et donc nous n'allons pas invoquer le Seigneur. Si nous venons dans le temps de pénitence, la fleur aux dents, en nous disant bah, finalement c'est très bien parce que, encore une fois je le répète, mais les plus grands spécialistes de diététique nous préconisent un certain nombre de jours de diète, etc., nous ne sommes absolument pas dans les douleurs et les gémissements, nous ne demanderons pas à Dieu sa grâce. Et il faut être absolument certain que nous n'obtiendrons rien. Et peut-être même que Dieu fera tourner à notre confusion ce jeûne thérapeutique, peut-être que nous abuserons du jeûne et que nous nous ferons du mal, et ça sera tant mieux et bien fait pour nous. Les gémissements de la mort m'avaient entouré. Dans ma détresse, j'invoquais le Seigneur, et de son Saint-Temple, il entendit ma voix. Si nous ne faisons pas retentir notre voix comme un cri de détresse, en cet début de temps de pénitence, mes très chers frères, à Dieu, eh bien, nous ne serons pas exaucés. C'est une lapalissade, encore faut-il y penser. Nous ne serons pas encouragés. Nous ne serons encouragés que dans la mesure où nous nous abaissons nous-mêmes dans l'humilité. Il n'y a pas de pénitence sans humilité, et il n'y a pas d'humilité sans pénitence. Voilà ce que nous disent les maîtres de la vie spirituelle. L'humilité dont nous avons besoin ici, pour commencer ce temps de pénitence, eh bien, l'humilité, pourrions-nous dire, consiste à nous voir tel que Dieu nous voit. Et comment nous voit-il? Eh bien, il nous voit tout d'abord faibles, parce que nous sommes des créatures, alors que lui est Dieu. Il nous voit ensuite pécheurs, il nous voit aussi orgueilleux, il nous voit oisifs, non seulement oisifs, mais aussi rebelles. Il nous voit impuissants sans le Christ. Voilà de quoi nous humilier en nous voyant tels que Dieu nous voit. Pourquoi devons-nous nous humilier, mes très chers frères? Eh bien, parce que sinon, nous manquons de bon sens. Si arrivés au commencement de ce temps de pénitence, nous ne nous humilions pas, eh bien nous manquons de bon sens, puisque ça serait un petit peu comme quelqu'un qui serait invité officiellement à se laver les mains et qui ne se laverait pas les mains, quoique ses mains soient sales. Dieu nous invite à faire pénitence, l'Église nous oblige à faire pénitence durant ce temps de pénitence, spécialement durant le carême, et il se trouve que si nous n'avons pas des sentiments d'humilité, pour ces raisons-là que nous venons d'évoquer, et plein d'autres encore, eh bien, il se trouve que, tout simplement, nous allons perdre le temps qui nous sera donné, nous allons mal faire ce carême, et nous, non seulement nous n'obtiendrons aucune grâce, ce qui est la moindre des choses, mais encore, nous aurons ajouté des péchés à ceux pour lesquels nous n'aurons pas fait pénitence. Comment pouvons-nous nous aimer tels que nous sommes, lorsque Dieu nous voit dans un tel état que, à la 11e heure, sa grâce nous fournit, encore une fois, l'occasion de faire pénitence. Si nous ne faisons pas pénitence, mes très chers frères, nous perdons la grâce que Dieu, non pas s'apprête à nous redonner l'année prochaine ou une autre fois, mais que Dieu ne nous devait pas. Il se trouve que lorsque le père de famille va sur la place publique et engage ses ouvriers qui ont été oisifs jusqu'à la 11e heure, ils n'avaient pas à le faire. Et s'ils avaient dit « Oh, ben, il ne reste plus qu'une heure, ça ne vaut pas la peine », eh bien, ils n'auraient rien eu. Tandis que nous, nous savons, nous n'insisterons pas sur cela aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est plutôt un discours pénitentiel, mais nous savons que cette heure qu'il reste à travailler vers le soir, c'est-à-dire c'est une heure où ce n'est pas le poids du jour, contrairement aux heures durant lesquelles ont travaillé les autres ouvriers qui sont venus avant nous, cette heure vaut un denier, c'est-à-dire elle vaut un prix disproportionné par rapport au travail fourni. Si nous restons oisifs et que nous ne nous soumettons pas à ce père de famille qui nous dit finalement que nous sommes des paresseux et que nous avons notre petite fierté, nous voulons réagir d'une façon qui soit digne de notre état, etc., et qui est en réalité totalement ridicule, eh bien il se trouve que nous manquons la dernière occasion, avant la fin du monde, peut-être la fin de notre vie, qui nous est donnée de faire pénitence. Allez, vous aussi, dans ma vigne. C'est une parole de grâce qui dépasse tout ce que le pire des pécheurs qui auraient un tant soit peu de contrition pourrait espérer entendre. Elle correspond, mes très chers frères, dans une autre parabole, à cette parole du père du fils prodigue qui fait remettre à son fils un habit de dignité et qui fait égorger le veau gras. Allez vous aussi à ma vigne. Voyez, une petite humiliation, pourquoi vous tenez-vous tout le jour oisif, nous vaudra un salaire de patriarche. C'est disproportionné. C'est pour cela que nous devons nous voir tel que Dieu nous voit et ne pas être ridicules en refusant ou en atténuant la vision que nous avons de nous-mêmes, alors que Dieu a une vision objective de nous. Il nous voit, je vous le rappelle, faibles, pécheurs, oisifs, orgueilleux et rebelles, impuissants sans le Christ. Comment pourrions-nous nous cacher à nous-mêmes que nous sommes cela? Et Dieu nous voit alors qu'il est parfait, tandis que nous, nous nous voyons en faisant l'expérience de notre faiblesse et de notre impuissance. Nous devons donc, mes très chers frères, ne pas être ridicules, mais bien plutôt crier vers Dieu. Et c'est pour cela que dans le graduel, nous disons, le psalmiste dit « Vous êtes notre secours dans le moment de besoin et d'angoisse. Ceux qui vous connaissent mettent leur espoir en vous. » Car l'indigent ne sera pas toujours oublié. L'attente des humbles ne périra pas à jamais. Levez-vous, Seigneur, que le mortel ne prévale pas. Il faut donc, en ce début de temps de pénitence, crier contre soi-même, mes très chers frères, crier contre soi-même, oisif et paresseux, jusqu'à la dernière heure. Levez-vous, Seigneur, que le mortel ne prévale pas. Ex urge domine non prevaleat homo. Que l'homme ne prévale pas en moi, que le mortel ne prévale pas en moi, que le vieil homme ne prévale pas en moi. Sans vous, je ne peux rien faire. Sans vous, je ne peux pas commencer ce temps de pénitence comme je le devrais, parce qu'il me faut une grâce pour faire véritablement pénitence. Seigneur, levez-vous, donnez-moi cette grâce. Dites-moi à moi aussi, dites à moi aussi, allez vous aussi à ma vigne. Nous en arrivons donc à notre deuxième point, qui consiste dans l'examen de ce que nous devons, maintenant que nous avons crié à Dieu, d'une façon générale, dire ou demander à Dieu d'une façon particulière. Et nous le verrons dans l'oraison collecte d'aujourd'hui. Preces populi tui que sumus, etc. Dans votre clémence, exaucez, Seigneur, la prière de votre peuple. Faites que, justement affligés pour nos péchés, nous soyons miséricordieusement délivrés pour la gloire de votre nom. Tout d'abord, nous n'irons pas trop en détail dans cette oraison qui est magnifique. Nous la balayerons à grands traits. Preces populi tui, tout d'abord, les prières de votre peuple. Et l'Église nous fait prier encore aujourd'hui. Ce n'est pas la seule fois, mais aujourd'hui elle nous fait prier encore parce que nous entrons encore dans le temps de pénitence. Les laïcs ne sont pas encore tout à fait tenus de commencer la pénitence actuellement. Ils peuvent commencer, disons, par retrancher certaines choses. Ils peuvent, ce n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire, mais les religieux rentrent déjà dans le temps de pénitence. Donc vous me permettrez, mes très chers frères, de parler comme si nous étions déjà en carême, parce qu'il y en a qui sont déjà en carême. Preces populi tui. Donc l'Église nous fait prier encore. Il nous faut commencer dès à présent à nous réconcilier avec notre prochain en vue de la communion pascale. Il y a une chose que l'on oublie très souvent, mais qui se faisait évidemment d'une façon extrêmement communément autrefois, et tous les prédicateurs insistaient sur ce point, c'est que la communion pascale, c'est pas simplement, ne consiste pas simplement dans le fait d'avoir à un moment ou à un autre fait sa confession et de pouvoir communier. De toute façon, on peut très bien communier tous les jours de carême et tous les jours d'après Pâques, donc la communion pascale n'est qu'une communion parmi d'autres. Tout ça, c'est très bien. La seule chose, il se trouve que ce n'est pas l'ancienne discipline. L'ancienne discipline consistait à se préparer durant le temps de pénitence pour faire une bonne communion pascale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communier entre-temps, mais ça veut dire qu'il faut se préparer. Et comment se préparer? Sinon, en prenant conscience que, ayant prié Dieu en corps, c'est-à-dire en tant que corps, avec tous nos frères, pour obtenir encore, en tant que corps, la grâce qui nous permettra de faire pénitence, nous devons nous réconcilier aussi avec nos frères. Donc évidemment, il y a frères et frères, il y a les frères qui sont d'une religion et les frères qui sont d'une autre, et on ne peut pas se réconcilier avec des gens qui ne sont pas de la même religion que nous. Mais dans la mesure où nous sommes de la même religion, il se trouve que nous devons prendre occasion de ce temps de pénitence pour nous raccommoder avec nos frères, pour nous réconcilier avec nos frères, de telle sorte que, arrivés à la communion pascale, au temps de la grande communion pascale, nous puissions communier d'une façon qui soit digne, et que nous puissions communier encore, si j'ose dire, c'est-à-dire en tant que corps, avec nos frères. Nous ne sommes pas appelés à communier chacun pour soi, pour les petits besoins de notre petite âme. Nous sommes appelés à communier à celui qui est le chef du corps dont nous ne sommes jamais que les membres, et les membres liés les uns aux autres. Nous sommes membres les uns des autres. N'oublions pas, donc, mes très chers frères, de nous réconcilier avec nos frères durant ce temps de pénitence, de peur que nous n'arrivions, certes ayant fait pénitence à notre façon, mais sans avoir fait cette grande pénitence par rapport à l'amour propre, de nous réconcilier, de demander pardon à ceux que nous avons offensés, d'avoir réparé nos dettes, payé nos dettes à ceux auxquels nous avons des dettes, d'une morale ou physique ou autre. C'est en tant que corps que nous nous adressons à Dieu pour recevoir les grâces de la pénitence, c'est en tant que corps que nous devons nous réconcilier les uns avec les autres afin de nous préparer à la communion pascale. Nous avons besoin de nos frères pour faire pénitence. Nous ne serons pas sauvés sans eux. Il ne faut pas s'imaginer que c'est une sorte de chacun pour soi et que le carême, c'est l'occasion pour chacun d'essayer de faire mieux que son prochain. Il y a une sainte émulation, évidemment, et qui doit être réglée par les bornes du conseil, enfin du conseil du confesseur, de la modestie, etc., bien entendu. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entre-imiter les uns les autres et y avoir une sainte émulation, mais il faut aussi, surtout, mes très chers frères, s'aimer les uns les autres en nous souvenant que nous ne serons pas sauvés les uns sans les autres. Donc, vous voyez, de votre peuple, les prières. Nous prions en tant que peuple, nous sommes un peuple chrétien, nous devons donc être unis les uns avec les autres, pas simplement par le biais de la liturgie, mais par le biais aussi des efforts que nous faisons pour nous réconcilier les uns avec les autres et vivre en paix les uns avec les autres. Ça ne veut pas forcément dire que nous devons être amis intimes et meilleurs amis avec nos frères. Ça ne se commande pas d'une certaine manière. L'amitié, c'est une chose qui dépend notamment de facteurs subjectifs, mais au moins nous devons être en accord avec eux. Nous devons être réconciliés avec eux. Nous devons les aimer objectivement en tant que membres du même corps, cohéritiers du Christ, les uns avec les autres. Donc, les Preces Populi Tui Quae Sumus Domine, les prières de votre peuple, s'il vous plaît, Seigneur, nous adressons donc au Seigneur, Domine. Seigneur, simplement. Seigneur, ici, c'est notre maître. C'est notre maître commun. C'est le Dieu dont nous tenons l'être. C'est notre Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ici, c'est le nom de Dieu, c'est celui dont nous tenons l'être, c'est notre Père dans le Christ, c'est notre Maître commun. C'est à lui que nous nous adressons. Vous voyez, nous ne nous adressons pas ici au Dieu Tout-Puissant, etc., ce qui est d'autres aspects du même Seigneur. Nous nous adressons simplement à celui qui est notre Seigneur, qui est notre Seigneur commun, notre Père commun, notre Maître commun. Seigneur, Clementer Exaudi, donc Preces Populi, Seigneur, les prières de votre peuple, s'il vous plaît, Seigneur, avec clémence exaucée. Nous demandons à Dieu qu'il nous exauce avec clémence, qu'il exauce ses prières de son peuple avec clémence. L'institution de la pénitence par l'Église, donc par Dieu, est un acte de clémence du Dieu qui aurait pu nous laisser livrer à nous-mêmes après la chute. C'est pour cela que nous évoquons la clémence de Dieu ici. Vous voyez, il ne s'agit pas d'avoir d'un côté les commandements d'Église et de l'autre côté l'indulgence de Dieu. Les commandements de l'Église, l'existence même des commandements de l'Église, est une manifestation de la clémence divine. Nous aurions pu ne pas faire pénitence. Est-ce que Adam, si Adam avait, au sortir du jardin d'Éden, chassé par Dieu et abandonné par Dieu, si Adam s'était dit « je vais faire pénitence », est-ce que ça aurait fait quelque chose à Dieu? Non. Mais dans la mesure où Dieu lui a donné non seulement le désir de faire pénitence, mais l'opportunité et l'occasion de faire pénitence, alors cela a plu à Dieu, parce que Dieu ne récompense que ses propres dons. Donc, vous voyez, Clementaire ici n'est pas, avec clémence, n'est pas indépendant du temps de pénitence, mais au contraire, nous demandons à Dieu de nous faire bien profiter du temps de pénitence, puisque c'est aussi le temps de sa clémence. Si Dieu n'avait pas été clément envers nos premiers parents, nous n'aurions pas la possibilité de faire pénitence. Faites que nous ne commettions pas la folie de négliger ce temps de pénitence qui est le temps de votre clémence. Exaucez les prières, c'est-à-dire que l'homme ne prévale pas. L'homme, nous sommes à nous-mêmes nos pires ennemis, nous ne voulons pas faire pénitence. Ne permettez pas que nous ne fassions pas pénitence, que l'homme ne prévale pas, donc exaucez les prières de votre peuple, chacun prie pour soi et chacun prie pour son prochain, de telle sorte que si nous prions mollement pour nous-mêmes, d'autres priant fortement pour nous, nous obtiennent des grâces de pénitence. Voilà pourquoi nous prions les uns pour les autres, selon le commandement de l'apôtre. Ces prières ont pour but unique de demander notre délivrance de tout ce qui en nous entrave notre course. Selon ces paroles de saint Paul, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, courez de manière à remporter le prix. Qu'est-ce qui entrave notre course, sinon notre concupiscence et notre oisiveté, c'est-à-dire notre nonchalance? Nous sommes tellement mauvais qu'en nous aimant nous-mêmes, nous méritons à nous-mêmes notre propre damnation. Voyez de quel amour nous nous aimons nous-mêmes. Vous voyez de quel amour le Père nous a aimés, dit saint Jean, il a donné son Fils unique pour nous. Il nous a aimés alors même que nous étions encore dans l'inimitié envers lui. Il nous a aimés alors que nous étions encore coupables. Eh bien, vous voyez quel amour, par contraste, nous nous portons à nous-mêmes. Tout ce que nous faisons qui nous plaît, nous vaut la damnation. Non prévaleat homo, que l'homme en nous ne prévale pas, mes très chers frères. Voilà pourquoi c'est notre cri à Dieu en ce temps de pénitence, que l'homme ne prévale pas en nous. Ne permettez pas, mon Dieu, ne permettez pas que nous nous damnions. Ne permettez pas qu'aucun de vos enfants ne se damne. Nous, out, afin que donc nous prions dans votre donc les prières de votre peuple, s'il vous plaît, Seigneur, avec clémence exaucées, afin que nous qui, juste propecatis nostris affligimur, nous qui sommes à juste titre affligés par nos péchés, à cause de nos péchés. Nous qui. Donc, vous voyez ici, le qui ici désigne ceux qui prient. Prêches populi tui, donc le peuple, mais un peuple de gens qui savent qu'ils sont à juste titre affligés par leurs péchés. Affligimur ici, c'est du passif, ce qui montre bien que nous sommes affligés pour nos péchés et que pour échapper à la rigueur de la justice, eh bien, il faut se précipiter devant elle sans rien nier et sans rien dissimuler de notre péché. On pourrait se dire, mais pour gagner la confiance de Dieu, ou disons la clémence de Dieu, il vaut mieux essayer de cacher le maximum de ses péchés. Quelle folie, mes très chers frères, personne ne se dit ça, puisque nous savons que Dieu voit tout. À Dieu, rien n'est caché. On ne peut pas cacher quelque chose à Dieu. Donc, il se trouve, mes très chers frères, que nous devons nous définir en ce temps de pénitence comme étant ceux qui sont à juste titre, iuste, pro peccatis nostris affligimur, ceux qui sont à juste titre affligés, qui subissent l'affliction, si vous voulez bien comprendre, qui subissent l'affliction pour leur péché. Mais qui est-ce qui nous fait subir cette affliction? Sinon, la grâce de Dieu qui nous fait nous affliger nous-mêmes. L'Église ne va pas venir et ne va pas nous faire nous affliger nous-mêmes. Peut-être que nous sommes affligés de voir la disparition des beaux ornements, la disparition des belles couleurs, la disparition des fleurs, la disposition des choses qui enjolivent la chapelle. Bon, mais enfin, il faut être vraiment un pauvre débile d'esthète pour pouvoir vraiment souffrir de tout cela. Si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs. Non, nous sommes affligés lorsque nous nous voyons tel que Dieu nous voit. Et lorsque nous nous voyons tel que Dieu nous voit, nous ne cherchons pas à nous dissimuler aux yeux de ce Dieu qui nous voit tel que nous sommes. En quelque sorte, nous nous précipitons devant Dieu et nous disons, Seigneur, nous sommes affligés de nous voir tel que vous nous voyez, nous sommes affligés d'être tel que vous nous voyez. Et c'est ainsi, sans grand paradoxe, que nous gagnerons la clémence de Dieu. Celui qui cache ses péchés n'obtiendra pas n'obtiendra pas pardon, mais celui qui les découvre devant Dieu, eh bien, obtiendra la justification. Nous sommes donc définis par le fait d'être affligés extérieurement et intérieurement par nos péchés. Notre orgueil voudrait nous faire nous présenter devant Dieu les mains pleines de bonnes œuvres, afin qu'il nous renvoie l'ascenseur. Si vous voulez un indice, disons un critère pour discerner si une œuvre que nous avons faite, nous l'avons faite pour l'amour de Dieu ou nous l'avons faite pour l'amour de nous-mêmes et pour notre propre gloire, c'est que si elle vient à être contrariée, si elle vient à connaître un échec, si elle vient à être méconnue par les hommes, eh bien, si nous en éprouvons une terrible déconvenue, c'est que nous la faisions pour nous-mêmes. Si, bien sûr, cela nous fait de la peine, mais si nous avons... Nous disons « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni », eh bien, ça veut dire que probablement nous l'avons faite pour l'amour de Dieu. Je dis probablement parce qu'il pourrait y avoir encore de l'orgueil à dire cela. Vous voyez comme le cœur humain est mauvais. Néanmoins, il se trouve que si nous nous vexons, si nous contrariés, nous le prenons très personnellement, ça veut dire qu'en fait nous œuvrons pour nous-mêmes et que nous espérons bien un jour nous présenter devant Dieu. Vous vous souvenez ces paroles terribles et horribles de Drummond devenu aveugle à quelques années de sa mort. Il disait « Après tout ce que j'ai fait pour le bon Dieu, c'est comme ça qu'il me récompense. Pauvre imbécile, pauvre imbécile. » Déjà, il n'avait rien fait pour Dieu, strictement rien fait pour Dieu. Puisque l'Église ne lui a jamais rien demandé, comme ni à lui ni aux autres d'ailleurs, mais il ne lui a jamais rien demandé, à lui encore moins qu'aux autres, et en plus, Dieu ne lui avait rien demandé, parce que quand on représente Moïse foulé aux pieds par un croisé, avec d'un côté les tables de la loi et de l'autre côté une bourse d'argent, comme si Moïse était un infâme usurier, eh bien je pense que la moindre des choses, c'est de ne pas dire qu'on a fait les choses pour Dieu, c'est plutôt de considérer que être rendu aveugle à la fin de sa vie, c'était peut-être la dernière occasion de faire pénitence qui lui était donnée, et je ne crois pas, enfin Dieu seul connaît les cœurs, mais je ne crois pas qu'il en ait vraiment profité, puisqu'il est mort dans l'amertume et dans des sentiments qui n'étaient pas très beaux, mais Dieu seul connaît les cœurs, bien entendu, loin de moi de juger le fond des choses. Donc, nous qui sommes à juste titre affligés pour nos péchés, Lorsque nous nous regardons dans la glace, mes très chers frères, si cela doit nous arriver durant ce temps de pénitence, soyons affligés de ce que nous voyons. Vous allez dire, je suis affligé parce que je ne m'aime pas, etc. Mais même si nous nous aimions, surtout si nous nous aimons, soyons affligés. Et lorsque nous regardons dans ce miroir encore plus flagrant, encore plus clair qu'est le crucifix, soyons affligés parce que si le Fils éternel de Dieu est cloué sur la croix, couronné d'épines, flagellé, etc., c'est à cause de nous, c'est à cause de ce que nous sommes et ce que Dieu voit que nous sommes. Donc c'est à juste titre que nous sommes affligés et que nous devons nous affliger nous-mêmes. Nous sommes horribles, nous sommes pitoyables, nous sommes à la 11e heure, et il se trouve que Dieu veut encore de nous pour travailler dans sa vigne. Ne perdons pas l'occasion, ne laissons pas passer l'occasion. Ut cuiuste propagatis nostris affligimur, afin que nous qui sommes à juste titre affligés pour nos péchés, protui nominis gloria, nous y reviendrons, misericorditer liberemur. Que nous soyons, nous qui sommes à juste titre affligés pour nos péchés, miséricordieusement libérés, délivrés. Il faut désirer l'affranchissement de notre propre concupiscence pour pouvoir être libérés, pour pouvoir être délivrés, mes très chers frères. Nous ne pouvons pas être délivrés si nous ne nous croyons pas prisonniers. Si vous arrivez dans une prison et que vous dites, vous ouvrez la porte et vous dites aux gens, vous pouvez sortir, et que la personne vous dit, mais attendez, ben, j'habite ici, vous allez dire, oui, mais vous êtes prisonnier. Ah ben non, je suis locataire, j'habite ici, j'ai jamais eu... Bon, comment vous voulez faire sortir, convaincre cette personne qu'elle peut sortir si cette personne n'a pas conscience d'être prisonnière? Si, en revanche, cette personne sait qu'elle est là et qu'elle est retenue contre son gré, dès que la porte va s'ouvrir, cette personne, vous n'allez pas avoir besoin de la prier pour qu'elle sorte en courant. Eh bien, de la même manière, nous ne pouvons pas être délivrés par Dieu si nous n'avons pas une très forte volonté après nous être affligés nous-mêmes pour nos péchés, d'être délivrés de ce qui a causé nos péchés, qui est la cause perpétuelle et permanente de nos péchés, qui est cette concupiscence, cette triple concupiscence qui est au fond de nous-mêmes, sous la forme du vieil homme, et qui corrompt toutes nos actions, et contre laquelle nous devons combattre jusqu'à la rendre presque morte, en tout cas comme engourdie et réduite presque à une condition de très grande servitude. Il faut désirer l'affranchissement pour pouvoir parvenir à l'affranchissement, mes très chers frères. Beaucoup sont ceux aujourd'hui qui profanent cette parole de notre Seigneur, la vérité vous rendra libre, et ils pensent que la liberté, c'est le fait de savoir les magouilles, les manigances, des ci, ça et l'autre. D'ailleurs, on en sait, l'histoire de ce virus nous fait voir que personne ne sait exactement ce dont il s'agit, et que tous ceux qui auront utilisé cette parole de notre Seigneur, la vérité vous rendra libre, pour diffuser toutes sortes d'informations plus ou moins vérifiées ou plus ou moins pas vérifiées, eh bien, se seront finalement contentés de profaner ces paroles de notre Seigneur. La vérité, qu'est-ce que c'est ? La vérité, c'est que nous sommes pécheurs. La vérité, c'est que nous sommes prisonniers. La vérité, c'est que nous sommes corrompus. Et la vérité nous rend libres dans la mesure où nous sommes affligés pour les choses qui sont vraies et qui nous caractérisent, et où nous détestons ces choses, et où dans son immense clémence, et c'est là où Dieu remplit le rôle qui est le sien et qui est un rôle purement gratuit, dans son immense clémence, Dieu nous pardonne et nous purifie et nous délivre. Miséricorditaire, nous qui sommes à juste titre affligés, que nous soyons miséricordieusement. Plus nous nous affligerons, plus nous serons à la portée, si j'ose dire, de la miséricorde de Dieu. Plus nous nous abaissons, plus nous serons relevés. Si nous faisons un tout petit carême du bout des lèvres en disant « oui, je suis, dans certains moments, lorsque je me laisse aller, je suis bien méchant, mais enfin, c'est pas moi, hein, comme disent les montagnes, c'est pas moi », eh bien, nous serons que très peu miséricordieusement traités. « Ah, c'est pas vous ? Ah bon, mais d'accord, alors je châtirai donc ce qui n'est pas vous. » Et curieusement, c'est vous. Non, il faut dire « c'est moi, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est moi, je me mets en colère une fois par an, mais je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère une fois par an. » Je suis donc tellement corrompu que je suis esclave de la colère. Oui, mais je ne me mets en colère qu'une fois par an. Si je ne peux pas me faire autre chose que me mettre en colère une fois par an, et que j'en suis rigoureusement incapable de faire autrement, c'est que je suis esclave de la colère. Et donc, que je peux être délivré par Dieu, bien entendu, mais il faut avant, pour être délivré, que je me confesse esclave du vice qui triomphe de moi. Dieu n'a compassion que de ceux qui ont honte d'eux-mêmes, qui ont honte de leur péché, qui sont affligés de leur propre oisiveté. C'est à cela que Dieu dit « Allez-vous aussi à ma vigne ». Et nous terminons notre troisième point par cette considération que nous avons mise de côté, qui est toujours dans l'oraison. « Protui nominis gloria » pour la gloire de votre nom. Pourquoi faisons-nous pénitence ? Pour expier nos péchés. Pourquoi voulez-vous que vos péchés soient expiés ? Pour pouvoir ne plus avoir cette tâche et pouvoir nous présenter devant Dieu pur, saint, propre. Et pourquoi voulez-vous vous présenter devant Dieu pur, saint, propre ? Pour qu'il puisse nous apprécier. C'est donc que vous faites pénitence en vain et pour un but qui n'est absolument pas le bon. Vous allez dire, mais comment que... Attendez, j'ai raté quelque chose. Qu'est-ce que... Redites un peu ce que vous avez dit. Vous voulez faire pénitence pour pouvoir être lavé de vos péchés, pour pouvoir avoir l'orgueil de vous présenter pur devant Dieu. Ben oui, mais ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Nous faisons pénitence afin que nous puissions bénéficier du salut que Dieu veut bien nous donner, afin que toute la gloire rejaillisse sur son saint nom. Pro tui nominis gloria. C'est la seule raison pour laquelle, en amont de tout, nous faisons pénitence et nous demandons à faire pénitence et nous nous détestons nous-mêmes et nous nous affligeons nous-mêmes à cause de nos péchés pour obtenir la grâce de faire pénitence pour la gloire de votre nom, la gloire du nom de Dieu. Le pardon et la délivrance que nous demandons à grand cri, à juste titre, et nous devons le faire, n'ont pour autre fin que la gloire du nom de Dieu. Et ce n'a pas pour fin de nous mettre à l'aise. Seigneur, faites diminuer en moi la concupiscence afin que je puisse m'occuper de toutes sortes de choses sans être... Mais vous occupez de quoi ? De quoi donc ? Nous allons retomber dans la concupiscence. La concupiscence peut très bien se combattre et se vaincre totalement et d'une façon tout à fait merveilleuse par la concupiscence appliquée ailleurs. Vous voyez, je suis un débauché. Je me jetais dans toutes sortes de choses. Maintenant, je sais que c'est mauvais. Donc, je vais faire un très gros effort sur moi-même. Je vais faire un très très gros effort sur moi-même. Je vais me restreindre, etc. Je vais abandonner toutes ces mauvaises habitudes, etc. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite ? Des conférences pour montrer qu'on peut triompher des mauvaises habitudes. La concupiscence aura simplement changé d'occupation. Je ne vais plus être ce que j'étais autrefois. Mais je vais être complètement sous l'emprise de la concupiscence dans ce que je suis, dans ce que je me serais fait de moi-même aujourd'hui. La concupiscence peut très bien se combattre et se dompter par la concupiscence. C'est comme les sorciers qui enlèvent une maladie et qui la refilent à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous délivre. Lorsque Dieu nous délivre, il nous transforme. Il nous transforme quoi donc ? En quelque chose de meilleur, en quelque chose dont nous pourrions être fiers. Il nous transforme en lui-même, c'est-à-dire en son fils, en la personne de son fils. Si nous demandons le pardon et la délivrance, c'est pour être conforme à notre Seigneur Jésus-Christ dans la stature de son plein âge parfait. Il se trouve que, mes très chers frères, si nous demandons à être délivrés de nos péchés pour être restitués à nous-mêmes et pouvoir faire ce que nous voulons, quitte à vouloir nous présenter devant Dieu pur et digne d'avoir un retour d'ascenseur, eh bien, il se trouve que nous nous trompons complètement. Et nous faisons mal pénitence. Enfin, en réalité, nous ne faisons pas du tout pénitence. Nous faisons simplement des efforts, mais pour nous-mêmes. Et Dieu sait si nous sommes alors là capables de faire des efforts extraordinaires pour nous-mêmes. Donc, vous voyez, mes très chers frères, si votre pénitence est comme sur des rails qu'elle roule bien, etc., faites très attention. Il se pourrait très bien qu'elle ait un mauvais principe. Je ne dis pas ça pour décourager ceux qui font pénitence, mais ceux qui font vraiment pénitence savent très bien que ce n'est pas décourageant d'entendre ça. La pénitence, c'est toujours difficile. La pénitence, c'est de remonter la pente. Lorsqu'on nous demande de remonter la pente, nous savons bien qu'il faut nous déchirer les genoux, les paumes des mains, etc., pour remonter péniblement cette pente. Si nous remontons cette pente trop rapidement, c'est que nous avons pris le funiculaire et que nous sommes en train de court-circuiter l'œuvre de la sanctification. Donc nous ne demandons pas, mes très chers frères, le pardon et la délivrance pour nous mettre à l'aise, parce que nous retomberions immédiatement ou très rapidement, parce que nous serions laissés à nous-mêmes, nous retomberions en nous-mêmes, que l'homme ne prévale pas. Il nous faut travailler jusqu'au soir, il nous faut... faire les œuvres, des dignes œuvres, porter des dignes fruits de pénitence, afin que la bonté et la générosité divine se manifestent et que toute la gloire en revienne au saint nom de Dieu. Si nous sommes déçus d'entendre cela, mes très chers frères, c'est que nous sommes mus par un secret orgueil qui est aussi incommensurable qu'il est secret. Si vous êtes déçu d'entendre cela à la fin de ce sermon, et que vous dites « Ah ben je pensais quand même que c'était même pour pouvoir paraître bien devant Dieu, c'était pour la gloire, donc pour tout pour lui, alors tout pour lui, il n'y en a que pour Dieu. » Quelle imbécilité d'entendre cette parole, et pourtant c'est une parole qui s'entend. Il n'y en a que pour Dieu dans la religion chrétienne. Croyez bien, mes très chers frères, que Dieu n'a strictement pas besoin de nous. Et que s'il a fondé notre religion pour que nous puissions être unis à lui jusqu'à devenir participants de la nature divine, c'est pour la gloire de son nom, et c'est pas parce qu'il a un quelconque intérêt en nous. Il n'avait aucun intérêt à créer, aucun intérêt à nous sauver après la chute, aucun intérêt à nous aimer alors que nous étions encore détestables, aucun intérêt à envoyer son fils s'abaisser et souffrir tout ce qu'il a souffert pour nous, aucun intérêt, sinon la gloire de son nom. Et que personne ne dise « Oh, mais c'est une sorte d'orgueil, Dieu est orgueilleux ». L'homme ne doit pas être orgueilleux parce que toute la gloire revient naturellement et légitimement à Dieu. Si l'homme ne doit pas être orgueilleux, ça ne veut pas dire que Dieu, de son côté, ne doit pas être orgueilleux. Ça veut dire que Dieu est Dieu et que toute la gloire de son nom, toute la gloire revient à son nom et que l'homme, n'étant qu'un homme, n'a pas le droit de capter la gloire de Dieu. C'est un petit peu comme si on disait le roi n'a pas le droit de porter une couronne parce que aucune personne dans le royaume n'a le droit de porter une couronne royale. Mais personne n'a le droit de porter une couronne royale parce que le roi, c'est parmi ses attributs de porter la couronne royale. Donc il ne faut pas dire si tout le monde le fait, oui, on n'est pas Kant, on n'est pas dans la morale de Kant qui dit qu'une chose est morale dans la mesure où elle est universalisable. Si il est interdit au sujet d'usurper les emblèmes du pouvoir royal, c'est parce qu'ils appartiennent au roi. S'il nous est interdit de nous enorgueillir, c'est parce que la gloire appartient à Dieu. Et il se trouve que plutôt que d'être mesquin et de vouloir chipoter, voyons que, en faisant pénitence, en obtenant le pardon, en obtenant la délivrance de notre concupiscence, nous contribuons positivement à la gloire de Dieu et nous participons à la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans le Christ, dont nous sommes les vrais membres, nous sommes participants de la nature divine. Nous qui sommes arrivés à la 11e heure, qui avons été contre toute attente, en dépit de notre coupable oisiveté employée à la vigne du Seigneur, sachons que si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, si nous rentrons véritablement dans un esprit de pénitence et que nous faisons pénitence, la récompense sera au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser. L'homme n'a part au salut que pour que Dieu soit glorifié en lui. Dieu ne récompense, dit notre Père, que ses propres dons. Nos mérites sont ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous sont véritablement imputés à nous parce que nous sommes lui. Je ne veux pas, mes très chers frères, que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Notre Seigneur dit, à la fin de cet évangile, si encourageant, il dit « Ainsi les derniers seront les premiers, Deo gratias, les premiers seront les derniers, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est en tant que corps que nous commençons cette pénitence. Prenons garde de ne pas périr dans le désert en chemin. Courons, mes très chers frères, de manière à remporter le prix. Courons par l'humilité, par la confession de nos péchés. Courons par la gratitude et par la charité fraternelle avec l'aide de la grâce de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.